J'ai lu cet été le petit volume qui s'appelle La Frantumalia.
Catherine Cusset, romancière.
Et qui est un volume de lettres et de textes écrits par Elena Ferrante à la fin des années 90, donc bien avant La Nuit prodigieuse. Et en particulier sa lettre à ses éditeurs, où elle justifie son choix du pseudonyme.
Ça peut pas faire de mal.
Et elle dit à l'éditrice, vous m'avez demandé ce que j'allais faire pour la promotion de ce livre, L'amour est moleste. Et elle a dit, mais enfin, j'ai déjà beaucoup fait, je l'ai écrit ce livre. Et je vous ai dit clairement que j'allais rien faire d'autre. Si ce livre a quelque chose à dire, les gens s'en apercevront, tôt ou tard. Et s'il n'a rien à dire, c'est que vous et moi, nous nous sommes trompés.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Dans la chambre faiblement éclairée, Lila était allongée sur un lit de camp tout habillée. Son fils, le petit Gennaro, dormait près d'elle. « Entre, me dit-elle. Je savais que tu viendrais. Viens m'embrasser. » Combien de temps s'était-il écoulé depuis notre dernière rencontre ? Je la découvrais encore plus maigre et pâle qu'alors, yeux rougis, narines gercées, ses longues mains entaillées. Elle se mit à parler sans s'arrêter, à voix basse, pour ne pas réveiller l'enfant. « Je t'ai vu dans les journaux, comme tu as l'air en forme. Qu'est-ce que tu as de beaux cheveux ? Je sais tout sur toi. Je sais que tu vas te marier, qu'il est professeur, bravo. Tu vas déménager à Florence. Excuse-moi de t'avoir fait venir à une heure pareille. Heureusement, tu es là. » « Qu'est-ce qui se passe ? » lui demandai-je. Et je voulus lui caresser la main. Mais cette question et ce geste semblèrent lui causer un choc. Elle écarquilla les yeux, fut prise de mouvements convulsifs et retira brusquement sa main. « Je ne vais pas bien, dit-elle, mais attends, n'aie pas peur, ça va passer. » Elle se calma. Puis elle dit lentement et presque en détachant les mots. « Lénu, je t'ai dérangé parce qu'il faut que tu me fasses une promesse. Je ne peux me fier qu'à toi. S'il m'arrive quelque chose, si je disparais, il faut que tu viennes chercher Gennaro. Ce sera à toi de t'en occuper et de l'élever près de toi. Enzo est gentil et il est doué, j'ai confiance en lui, mais il ne peut pas donner au petit les choses que toi tu peux lui donner. » Je la regardais, hésitante, et promis. Je promis, et restais auprès d'elle toute la nuit à l'écouter. C'est peut-être la dernière fois que je parle de Lila avec une telle richesse de détails. Par la suite, elle est devenue toujours plus fuyante et le matériau à ma disposition s'est appauvri. La faute aux divergences de nos vies, la faute à notre éloignement. Et pourtant, même alors, son ombre me stimulait, me déprimait, me gonflait d'orgueil ou m'abattait, sans jamais me permettre de trouver l'apaisement. Ces deux femmes, la narratrice Elena et son amie Lila, tiennent les premiers rôles d'une passionnante saga italienne, L'amie prodigieuse. Je viens de vous lire un extrait du troisième volume très attendu de la série, tout juste paru aux éditions Gallimard. Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir en français le quatrième et dernier volume de l'aventure. À qui doit-on ce phénoménal succès de librairie ? Le mystère demeure. Car Elena Ferrante, dont le nom se promène depuis quelques années en tête des ventes, s'avère en réalité le pseudonyme d'une romancière, ou d'un romancier peut-être, qui conserve depuis toujours son anonymat. Nous n'en saurons pas plus sur l'auteur de L'amie prodigieuse, mais l'essentiel après tout, c'est le superbe duo féminin né de sa plume qui nous emporte de livre en livre. Présentons-les rapidement, ces deux héroïnes. Elena Greco, dite Lenuccia, est née à Naples en 1944. Aînée d'une famille modeste, c'est une enfant appliquée, aimable et discrète. Depuis toujours, ou presque, sa vie est liée à celle de Lina Cerullo, qu'elle surnomme affectueusement Lila, la fille du cordonnier du quartier. Lila, c'est elle, l'amie prodigieuse. Effrontée, impérieuse, cruelle souvent, elle n'hésite pas à tenir tête à l'autorité, quel qu'en soit le prix. Dans le Naples des années 50, nos deux héroïnes partagent la même avidité de connaissances, curiosité nourrie par l'école ou cultivée en secret. Sur leurs existences pèse pourtant tout le poids des traditions du quartier. Elena et Lila parviendront-elles à s'échapper de cet univers borné pour choisir leur vie ? Tour à tour étroite ou distendue, nourrie de rivalité autant que de tendresse, leur amitié nous entraînera dans les méandres du XXe siècle. Mais pour mieux vous laisser savourer les volumes suivants, je vous propose ce soir de faire la part belle au premier tome de la saga, celui de l'enfance et de l'adolescence, celui des fondations. découvrons comment s'entrelacent les destins naissants de Lila et d'Elena. Pour ce voyage italien, nous emprunterons la traduction d'Elsa Damien parue aux éditions Gallimard. Commençons par la rencontre entre les deux amies âgées de 6 ans à peine. Nous sommes dans un quartier populaire de Naples en 1950. Elena Greco, la narratrice, est d'emblée fascinée par Lila Cerullo, la fille du cordonnier, au caractère indomptable. Mais Lila ne se contente pas d'être agressive. Elle se révèle, dès l'enfance, d'une remarquable intelligence. Glissons-nous dans la salle de classe pour découvrir, dans une scène fondatrice, le premier succès de cette amie prodigieuse. Lila apparut dans ma vie en première année de primaire et elle me fit tout de suite impression parce qu'elle était très méchante. Nous étions toutes un peu méchantes dans cette classe, mais seulement quand la maîtresse, Madame Oliviero, ne pouvait nous voir. Lila, en revanche, était tout le temps méchante. Un jour, elle réduisit le papier toilette en tout petits morceaux. Elle commença par glisser les fragments obtenus un à un dans l'ouverture de son encrier, puis elle se mit à les repêcher avec sa plume et à les lancer sur nous. La maîtresse hurla et lui ordonna de venir tout de suite derrière le tableau pour recevoir sa punition. Lila n'obéit pas, ne parut même pas effrayée et continua à lancer autour d'elle des bouts de papier trempés dans l'encre. Alors Madame Oliviero, une femme lourde qui nous paraissait très vieille, même si elle devait dépasser à peine la quarantaine, descendit de son estrade en la menaçant, trébucha on ne sait trop sur quoi, ne parvint pas à rétablir son équilibre et son visage alla cogner contre le coin d'une table. Elle resta allongée par terre comme morte. Je ne me souviens pas de ce qui se passa immédiatement après. Je me rappelle juste le corps immobile de la maîtresse, comme un tas de linge noir, et Lila qui la fixait, le visage sérieux. Il me sembla du coup que Lila aussi allait mourir, à cause de la punition terrible qu'elle allait recevoir. Mais tout était très surprenant à cette époque. Quand Madame Oliviero revint à l'école vivante, elle se mit à s'occuper de Lila, non pas pour la punir, comme cela nous aurait semblé naturel, mais pour chanter ses louanges. Cette nouvelle phase commença quand la mère de Lila, Madame Cerullo, fut convoquée à l'école. Un matin, l'appariteur frappa à la porte et l'annonça. Aussitôt après, Nunzia Cerullo entra, méconnaissable. Elle, qui, comme la plupart des femmes du quartier, vivait attifée de vieux vêtements élimés et en pantoufles, elle apparut dans sa robe de cérémonie. Mariage, communion, baptême et enterrement, tout en noir, avec des chaussures dotées d'un petit talon qui faisait souffrir ses pieds gonflés, et elle offrit à la maîtresse deux sachets en papier, l'un contenant du sucre et l'autre du café. La maîtresse accepta ce présent bien volontiers, et tout en regardant Lila qui, elle, fixait sa table, elle adressa à sa mère et à toute la classe des propos dont le sens général me désorienta. C'était notre première année de primaire. Nous apprenions tout juste de l'alphabet et les nombres de 1 à 10. La meilleure de la classe, c'était moi. Je savais reconnaître toutes les lettres. Je savais dire 1, 2, 3, 4, etc. On me félicitait tout le temps pour mon écriture et je gagnais des cocardes tricolores que cousait la maîtresse. Toutefois, à notre plus grande surprise, et bien que Lila l'ait fait tomber et envoyée à l'hôpital, Madame Oliviero déclara que la meilleure d'entre nous, c'était elle. Certes, c'était aussi la plus méchante. Certes, elle avait commis cet acte terrible de nous lancer des morceaux de papier toilette tachés d'encre. Certes, si cette petite fille ne s'était pas comportée de manière aussi indisciplinée, elle, notre maîtresse, ne serait pas tombée de l'estrade en se blessant à la joue. Mais il y avait quelque chose qui, en tant que maîtresse et aussi en tant que personne, la comblait de joie. Quelque chose de merveilleux qu'elle avait découvert quelques jours auparavant, par hasard. Elle saisit un morceau de craie et écrivit un mot au tableau. « Soleil ». Puis elle demanda à Lila, « Cerullo, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ?» Dans la classe, un silence intrigué s'installa. Lila esquissa un demi-sourire, presque une moue, puis elle lut d'un ton boudeur, « Soleil ». Nunzia Cerullo se tourna vers la maîtresse et son regard était hésitant, presque effrayé. Madame Oliviero n'eut pas l'air de comprendre pourquoi, dans ses yeux de mère, elle ne voyait pas l'enthousiasme qui était le sien. Mais ensuite, elle dut se douter que Nunzia ne savait pas lire et qu'en tout cas, elle n'était pas bien sûre qu'au tableau, il était vraiment écrit « soleil ». Donc, à la fois pour clarifier la situation au bénéfice de Madame Cerullo et pour féliciter notre camarade, elle dit à Lila « C'est bien, c'est ce qui est écrit, soleil ». Puis elle ordonna « Allez, Cerullo, viens au tableau. Écris « craie ». Lila, très concentrée, avec une écriture tremblante, plaçant les lettres tantôt en haut, tantôt en bas, écrivit C-R-A-I. Madame Olivero ajouta le E final et Madame Cerullo, en voyant la correction, lança avec désolation à sa fille « Tu t'es trompée ». Mais la maîtresse la rassura aussitôt « Non, non, non. Lila doit s'exercer, c'est vrai, mais elle sait déjà à la fois lire et écrire. Qui est-ce qui lui a appris ?» Madame Cerullo répondit les yeux baissés « Pas moi. » Alors la maîtresse s'adressa à Lila et avec une admiration sincère, lui demanda devant nous toutes « Qui est-ce qui t'a appris à lire et à écrire, Cerullo ?» Lila Cerullo, menue, les cheveux, les yeux et la blouse tout noirs, un nœud rose autour du cou et 6 années de vie seulement, répondit « Moi. » Découvrons à présent une autre scène d'initiation enfantine. Entre rivalité et complicité, Elena et Lila, voisines et camarades, nouent une amitié forte. À la fin de l'école primaire, les deux filles se passionnent pour la lecture et rêvent de faire fortune en écrivant à 4 mains. Dans l'intervalle, elles bravent les interdits à leur échelle. Lila, l'effrontée, convainc un jour son amie de s'aventurer hors du quartier. Frisson et frénésie, c'est le point de départ d'une escapade vers la liberté. Mais face aux aléas de l'expédition, Lila réserve à son amie une réaction inattendue. Peu avant l'examen de fin de primaire, Lila me poussa à faire une chose que toute seule je n'aurais jamais eu le courage de faire. Nous décidâmes de ne pas aller à l'école et de franchir les frontières de notre quartier. Aussi loin que je me souvienne, je ne m'étais jamais éloigné de nos immeubles blancs de 4 étages, de notre cour, de la paroisse et du jardin public et n'en avais jamais éprouvé le désir. Lila non plus n'avait jamais montré aucun intérêt particulier pour cette question. Pourtant, ce jour-là, elle organisa tout. Elle me dit de raconter à ma mère qu'après l'école, nous irions toutes chez la maîtresse pour fêter la fin de l'année scolaire. Chez moi, tout le monde y crut. La veille, je n'arrivais pas à m'endormir. Qu'y avait-il donc au-delà de notre quartier, au-delà de ce périmètre que nous connaissions par cœur? Habitués par nos manuels scolaires à parler savamment de ce que nous n'avions jamais vu, c'était l'invisible qui nous attirait. Lila disait que dans la direction du Vésuve, justement, il y avait la mer. Rino, son frère, y était allé et lui avait raconté que c'était de l'eau bleue et scintillante. Un spectacle merveilleux. Je me levai donc de bonne heure et fis tout comme si je devais aller à l'école. Le pain trempé dans le lait chaud, le cartable, la blouse. Comme d'habitude, j'attendis Lila devant le portail, mais au lieu de partir à droite, nous traversâmes le boulevard et partîmes à gauche, vers le tunnel. C'était tôt le matin et il faisait déjà chaud. On sentait une forte odeur de terre et d'herbe qui séchait au soleil. Nous passâmes entre les arbres, par des sentiers incertains qui montaient vers les rails. Arrivés au pylône électrique, nous ôtâmes nos blouses pour les ranger dans nos cartables, que nous cachâmes entre les buissons. Alors nous nous mîmes à courir à travers cette campagne que nous connaissions si bien, volant tout excités le long d'une pente qui nous conduisit à l'entrée du tunnel. La gueule était toute noire, et nous n'avions jamais pénétré dans cette obscurité. On se prit par la main. Et on entra, très tendu. Puis Lila poussa un cri et rit de la violence avec laquelle le son retentissait. Aussitôt après, je criais et ris à mon tour. Notre tension diminua et le voyage commença. Quand je songe au plaisir d'être libre, je repense au début de cette journée à la sortie du tunnel, à ce moment où nous nous retrouvâmes sur cette route toute droite à perte de vue. D'après ce que Rino avait dit à Lila, en la suivant jusqu'au bout, on arrivait à la mer. C'est avec joie que je me sentis exposé à l'inconnu. Nous marchâmes longtemps entre des murs écroulés, envahis par les mauvaises herbes et de petits édifices. Nous nous tenions par la main et avancions côte à côte, mais pour moi, comme toujours, c'était comme si Lila se trouvait 10 pas devant moi et savait précisément que faire et où aller. Puis nous commençâmes à fatiguer et à avoir faim et soif. Nous n'avions pas pensé à ça. Lila ralentit et je ralentis moi aussi. Je me rendis compte qu'elle se retournait souvent et me mis à me retourner moi aussi. Sa main était en sueur. La route déjà parcourue nous était désormais peu familière, comme l'était celle qui continuait à se dérouler devant nous. Mais c'était un paysage d'abandon qui se dressait maintenant autour. Des monceaux de bidons, de bois brûlés, des carcasses de voitures, des meubles à moitié détruits et de la ferraille rouillée. Pourquoi Lila ne disait-elle plus rien ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Je regardais mieux. Derrière nous, tout devenait noir. De gros nuages très lourds s'étaient posés sur les arbres et les réverbères. Nous entendîmes au loin les grondements du tonnerre. Je pris peur, mais ce qui m'effraya le plus, ce fut l'expression de Lila, nouvelle pour moi. Elle était là, bouche bée, les yeux grands ouverts, et regardait nerveusement devant elle, derrière, sur le côté, en me serrant la main très fort. Était-il donc possible, me demandais-je, qu'elle ait peur ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Les premières grosses gouttes tombèrent. Elles frappèrent la poussière de la route en y laissant de petites taches marron. « On rentre, » dit Lila. « Ben, et la mer ? C'est trop loin. Et la maison ? Aussi. Autant aller à la mer, alors ? Non. Et pourquoi ?» Je la vis agitée comme je ne l'avais jamais vue. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on faisait demi-tour. La mer ne devait plus être bien loin. Une lumière violette déchira le ciel et il tonna plus fort. Lila me tira brutalement et je me retrouvai à courir sans conviction en direction de notre quartier. Le vent se leva, les gouttes se firent plus drues et en l'espace de quelques secondes, elles se transformèrent en cascades. Nous fîmes le chemin d'un pas rapide et le cœur en tumulte, d'abord sous des trombes d'eau, puis sous une pluie fine et finalement sous un ciel gris. Rien ne s'était passé comme prévu. Ma mère était venue à l'école avec un parapluie pour m'accompagner à la fête chez la maîtresse. Elle avait découvert que je n'y étais pas et qu'il n'y avait aucune fête. Elle me cherchait depuis des heures. Le soir, elle raconta tout à mon père et l'obligea à me battre. Pendant toute la nuit, je tentais de saisir ce qui s'était réellement passé. Une mystérieuse inversion des rôles s'était produite. Malgré la pluie, j'aurais voulu continuer à avancer. Je me sentais loin de tout et de tous. Et cette distance, c'est la première fois que je le découvrais, éteignait en moi tout lien et toute préoccupation. Lila, au contraire, avait brusquement regretté son propre plan, avait renoncé à la mer et voulu rentrer dans les frontières de notre quartier.
Una notte a Napoli, con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.
Con lui volando dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole. Quanto tempo sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite, quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare, il tempo passa, l'amore scompare, la danza finirà.
Les années passent, immergées dans des univers contraires, les deux amies demeurent complices. Elena et Lila ont désormais 12 ans. Tandis que la narratrice fait ses débuts laborieux au collège, Lila, pourtant brillante, est contrainte par son père d'arrêter ses études. Mais si elle travaille avec application dans la cordonnerie familiale, la jeune fille poursuit son apprentissage en secret, lisant autant que possible. L'ambition et l'imagination habitent toujours l'adolescente, avide de revanche sociale. Voyons comment, au détour d'une discussion, elle analyse à sa manière les lois qui régissent le quartier. Un jour, Lila me montra les dessins des chaussures qu'elle voulait réaliser avec son frère pour homme et pour femme. C'étaient des dessins magnifiques, faits sur des feuilles à petits carreaux, riches de détails coloriés, avec précision, comme si elle avait eu l'occasion d'examiner des chaussures de ce genre de tout près dans quelques mondes parallèles aux nôtres, et puis les avait fixées sur le papier. En réalité, c'était elle qui les avait inventées dans leur ensemble et dans tous leurs détails, comme elle le faisait à l'école quand elle dessinait les princesses, de sorte que, même si c'était des chaussures tout à fait normales, elles ne ressemblaient pas à celles que l'on voyait dans le quartier, ni même à celles des actrices des romans photos. « Elles te plaisent ?» me demanda-t-elle. « Elles sont très élégantes. Mon frère Rino dit qu'elles sont difficiles. Mais il sait les faire ?»«
Il jure que oui.
Et ton père ?»«
Il en est sûrement capable. » »«
Alors vous n'avez qu'à les faire ?»«
Papa ne veut pas. »
Pourquoi ?
Il dit que tant que c'est moi qui joue, ça va, mais que Rino et lui n'ont pas de temps à perdre avec moi.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que pour faire les choses vraiment, il faut du temps et de l'argent. On doit essayer quand même. Si on n'essaie pas, rien ne change jamais.
Ce qui devait changer, selon elle, c'était toujours la même chose. De pauvres, nous devions devenir riches. Et alors que nous n'avions rien, nous devions arriver à tout avoir. Je tentais de lui rappeler notre vieux projet d'écrire des romans comme l'avait fait l'auteur des 4 filles du docteur March. C'était une idée fixe et j'y tenais. J'apprenais le latin exprès et en mon fort intérieur, j'étais persuadé que si elle prenait tant de livres à la bibliothèque itinérante, c'était uniquement parce que, même si elle n'allait plus à l'école et si elle était désormais obsédée par les chaussures, elle voulait quand même écrire un roman avec moi et gagner beaucoup d'argent. Mais elle haussa les épaules avec son air dédaigneux. «
De nos jours, m'expliqua-t-elle, pour s'enrichir vraiment, il faut une activité économique. »
De sorte qu'elle voulait commencer avec une seule paire de chaussures, histoire de démontrer à son père qu'elles étaient belles et confortables. Puis, une fois celui-ci convaincu, il faudrait se mettre à produire 2 paires de chaussures aujourd'hui, 4 demain, 30 dans un mois, 400 dans un an, afin d'arriver sans trop attendre à fonder, elle, son père, Rino, sa mère et ses autres frères et sœurs, une usine de chaussures avec des machines et au moins 50 ouvriers. Les chaussures Cerullo. Elle m'en parla avec beaucoup de conviction, comme elle savait le faire. Ces phrases en italien peignaient devant mes yeux l'enseigne de l'usine, Cerullo, la marque imprimée sur les tiges, Cerullo, et puis les chaussures Cerullo elles-mêmes, toutes merveilleuses et extrêmement élégantes, comme dans ses dessins. « Des chaussures comme ça, dit-elle, elles sont tellement belles et confortables que quand tu les as aux pieds, tu vas te coucher sans les enlever. » Nous commençâmes à rire et à plaisanter. Puis Lila dut se rendre compte que nous étions en train de jouer comme nous le faisions avec nos poupées des années auparavant. Alors elle me dit, comme s'il était urgent de revenir au concret, accentuant son air de petite fille petite vieille qui me semblait devenir son trait caractéristique.
« Tu sais pourquoi les frères Solara se prennent pour les patrons du quartier ?
Parce qu'ils se croient tout permis ?
Non, parce qu'ils ont de l'argent.
Tu crois ?
Bien sûr. Tu as vu que Pinuccia Caracchi, ils l'ont jamais embêté ?
C'est vrai.
Et tu sais par contre pourquoi ils se sont comportés comme ça avec Ada ?
Non.
Parce que Ada n'a pas de père. Son frère Antonio compte pour du beurre. Et elle aide Mélina à nettoyer les escaliers de l'immeuble.
Par conséquent, ou bien nous gagnons de l'argent nous aussi, et plus que les Solara, ou bien pour nous défendre des 2 frères, il fallait que l'on se mette à leur faire très mal. Elle me montra un tranchet extrêmement coupant qu'elle avait pris dans la boutique de son père. « Moi, il ne me touche pas parce que je suis moche, me dit-elle. Mais toi, il pourrait le faire. Si ça t'arrive... « Dis-le-moi. » Je regardais Lila interloquée. Nous ne savions rien, à presque 13 ans, des institutions, des lois ou de la justice. Nous répétions et à l'occasion, nous faisions avec conviction ce que nous avions entendu et vu faire autour de nous depuis notre prime enfance. Je me rendis compte qu'avec ces dernières déclarations, mon amie avait admis qu'elle tenait beaucoup à moi. Et je me sentis heureuse.
Deux ans après cette discussion, le destin de Lila se précipite.
Sa ténacité a porté ses fruits, la voilà sur le point d'être riche. Les deux amies ont désormais 15 ans. Elena, la narratrice, poursuit avec application ses études au lycée. Elle est secrètement amoureuse d'un brillant jeune homme, Nino. De son côté, la gamine chétive qu'était Lila s'est transformée en une magnifique jeune fille et ses modèles de chaussures suscitent bientôt l'admiration. Soucieuse de concrétiser son projet commercial, Lila refuse pourtant les avances de l'influent Marcello Solara aux pratiques mafieuses. Elle jette son dévolu sur Stefano Caracchi, jeune épicier aisé et estimé dans le quartier, qui offre d'investir dans la fabrication des chaussures maison. Tandis que la famille de Lila se résout à cette union, la narratrice observe avec amertume la métamorphose de son amie d'enfance. Dans son rôle de fiancée, Lila fut très enviée et causa bien de l'agacement. Sa manière d'être énervait déjà quand elle était une gamine maigrelette, alors vous pensez bien maintenant qu'elle était une jeune fille aussi chanceuse. Elle-même me parla de l'hostilité croissante de la mère et surtout de la sœur de son fiancé. Les deux femmes portaient clairement leur antipathie écrite sur le visage. Mais pour qui se prenait-elle, la fille du cordonnier? Quel filtre maléfique a-t-elle fait boire à leur Stefano? Nous aussi, les filles du quartier, nous eûmes bientôt des problèmes. Tous les jours chômés, Carmela, Ada et Giliola commencèrent à se mettre sur leur 31 afin de rivaliser avec Lila, même si elle ne l'avouait ni aux autres ni à elle-même. Mais il n'y avait pas de compétition possible. Lila semblait hors de portée, comme quelque silhouette ensorcelante vue à contre-jour. Il fut bien évident que Lila était en train de changer de statut. Au fil des jours et des mois, elle devint une demoiselle qui imitait les modèles des revues de mode et les femmes de la télévision. En la voyant, on se disait qu'elle dégageait une lumière qui était une grande claque assénée à la misère de notre quartier. Son corps de petite fille, dont il restait encore quelques traces lorsque nous tissions ensemble la trame qui l'avait conduite à ses fiançailles avec Stefano, fut rapidement chassé vers quelques territoires obscurs. Et à la lumière du jour, apparut une jeune femme qui, lorsqu'elle sortait le dimanche au bras de son fiancé, avait l'air d'appliquer les clauses d'un contrat établi dans leur couple. Quant à Stefano avec ses cadeaux, il semblait vouloir démontrer au quartier que si Lila était belle, elle pouvait l'être toujours plus. Lila avait apparemment découvert la joie de puiser dans la source inépuisable de sa beauté et celle de sentir et montrer qu'aucun profil bien dessiné ne pouvait la contenir de manière définitive. De sorte qu'une nouvelle coiffure, une nouvelle robe, un nouveau maquillage des yeux ou de la bouche n'étaient que des frontières de plus en plus avancées qui effaçaient les frontières précédentes. Stefano avait l'air de chercher en elle le symbole le plus éclatant de l'avenir d'aisance et de pouvoir auquel il tendait. Et elle utilisait sans doute le sceau qu'il était en train de lui imposer pour se protéger elle-même et son frère, ses parents et le reste de la famille de tout ce qu'elle avait confusément affronté et défié depuis son enfance. Je me rappelle qu'un soir, à la maison, je relus exprès la lettre qu'elle m'avait envoyée quelque temps plus tôt, comme sa manière de parler d'elle-même était séduisante et comme elle semblait maintenant lointaine. Je dus reconnaître que la Lila qui m'avait écrit ces mots avait disparu. Dans cette lettre, il y avait encore celle qui avait écrit, à 10 ans tout juste, une histoire intitulée « La fée bleue » avec une fantaisie et un talent rare. La fillette qui avait appris le latin et le grec toute seule. Et même celle qui avait fait les dessins de chaussures désormais encadrés dans la cordonnerie. Mais dans la vie de tous les jours, je ne la voyais plus, je ne l'entendais plus. La Lila, nerveuse et agressive, s'était pour ainsi dire immolée. Nous avions beau habiter toujours, elle et moi, le même quartier, avoir eu la même enfance et être toutes les deux dans notre 15e année, nous nous retrouvions soudain dans deux mondes différents. Tandis que les mois défilaient, je me transformais en une jeune fille à lunettes négligée et ébouriffée, toujours penchée sur des livres en lambeaux qui dégageaient la mauvaise odeur des volumes d'occasion achetés au prix de grands sacrifices. Lila passait au bras de Stefano, coiffée comme une star et habillée avec des vêtements qui la faisaient ressembler à une actrice ou à une princesse. Je la regardais de ma fenêtre. Je me disais que sa forme précédente s'était cassée. Je savais, ou peut-être j'espérais, qu'aucune forme ne pourrait jamais contenir Lila. Et que tôt ou tard, elle casserait tout une nouvelle fois. Retrouvons les deux amis à l'aube du mariage de Lila, entre émotion et doute. Les mois passent Tandis qu'Elena fréquente Antonio, un jeune garagiste du quartier, les projets de Lila se concrétisent. Ses premiers modèles de chaussures voient le jour et les préparatifs de son mariage vont bon train. Malgré leur réalité distincte, les deux amis retrouvent leur complicité. Poursuivant sa formation intellectuelle au lycée, Elena sollicite les conseils de Lila pour son premier article. En retour, elle participe activement aux préparatifs des noces de Lila et Stefano. Observons les deux jeunes femmes en ce fameux jour qu'Elena redoute secrètement. Le 12 mars arriva. C'était une journée douce, déjà printanière. Lila voulut que j'aille de bonne heure dans sa vieille maison et que je l'aide à se laver, se coiffer, s'habiller. Elle fit sortir sa mère et nous restâmes seuls. Elle s'assit sur le bord du lit en culotte et soutien-gorge. Elle avait près d'elle sa robe de mariée qui semblait le corps d'une morte. Devant elle, sur le carrelage hexagonal, il y avait la bassine en cuivre pleine d'eau fumante. Elle me demanda à brûle-pourpoint, « D'après toi, je fais une erreur ?»« En faisant quoi ?»« En me mariant. Je pense à notre ancienne maîtresse, Madame Oliviero. Pourquoi elle n'a pas voulu me laisser entrer chez elle quand nous lui avons rendu visite ?»« Parce que c'est une vieille mégère. » Elle se tut un moment, fixant l'eau qui luisait dans la bassine, puis dit, « Quoi qu'il arrive, toi, n'arrête pas tes études. » « Encore 2 ans, ensuite je passerai mon diplôme et ce sera fini. »« Non, ce n'est jamais fini. Je te donnerai les sous, tu dois continuer à étudier, toujours. » J'eus un ricanement nerveux et puis dis, « Merci, mais à un moment donné, l'école, ça finit. »« Pas pour toi. Toi, t'es ma copine et t'es un génie. Tu dois devenir plus forte que tout le monde, garçon et fille. » Elle se leva, enleva culotte et soutien-gorge et dit, « Allez, aide-moi, sinon je vais être en retard. » Je ne l'avais jamais vue toute nue. Et je ressentis de la honte. Aujourd'hui, je peux dire que ce fut la honte de poser avec plaisir mon regard sur son corps, d'être le témoin non impartial de sa beauté de jeune fille de 16 ans, quelques heures avant que Stefano ne la touche, ne la pénètre, et peut-être ne la déforme en l'engrossant. À l'époque, ce ne fut que la sensation tumultueuse de faire quelque chose d'inconvenant, mais d'inévitable. L'impression d'être dans une situation où je ne pouvais détourner le regard ni éloigner ma main sans reconnaître mon propre trouble, sans l'avouer justement en m'éloignant et par conséquent sans entrer en conflit avec l'innocence sereine de celle qui me causait ce trouble. Sans pouvoir exprimer, précisément par un refus, la violente émotion qui me bouleversait. Je m'obligeais donc à rester et à poser mon regard sur ses épaules de garçon, ses seins en mamelon glacé, ses hanches étroites et ses fesses tendues, sur son sexe très noir, ses longues jambes, ses genoux tendres, ses chevilles rondes et ses pieds élégants. Et je faisais tout comme si ce n'était rien, alors que c'était tout. Tout se jouait là, dans cette pauvre chambre un peu sombre, avec son mobilier misérable et son carrelage disjoint plein d'éclaboussures. Et mon cœur était affolé, mon sang brûlant. Je la lavais avec des gestes lents et soigneux, d'abord en la laissant accroupie dans le bac, et puis en lui demandant de se mettre debout. J'ai encore dans les oreilles le bruit de l'eau qui dégouline et j'ai gardé l'impression que la consistance du cuivre de la bassine n'était guère différente de celle de la chair de Lila, lisse, ferme et calme. J'ai dû penser des sentiments confus, la prendre dans mes bras, pleurer avec elle, l'embrasser, lui tirer les cheveux, rire, m'inventer des compétences sexuelles et l'instruire d'un ton docte, prendre mes distances avec les mots au moment même de la proximité maximale. Mais à la fin, il ne me resta que l'idée horrible que j'étais en train de la nettoyer de la tête aux pieds de bon matin, juste pour que Stefano puisse la salir au cours de la nuit. Je l'imaginais, nue comme elle l'était en ce moment, enlacée à son mari dans le lit de sa nouvelle maison, tandis que le train ferraillait sous leur fenêtre, et sa chair violente à lui entrait en elle d'un coup net, comme le bouchon de liège qu'on pousse avec la paume dans le goulot d'une fiasque de vin. Il me sembla tout à coup que l'unique remède contre la douleur que j'éprouvais et que j'allais éprouver était de trouver un coin assez isolé pour qu'Antonio me fasse au même moment la même chose. Je l'aidai à se sécher, s'habiller et endosser la robe de mariée que moi-même, me dis-je avec un mélange de fierté et de souffrance, j'avais choisi pour elle. L'étoffe se mit à vivre, sur sa blancheur courir la chaleur de lilas, le rouge de sa bouche et l'intense noirceur de ses yeux durs. À la fin, elle enfila les chaussures qu'elle avait dessinées elle-même. Pressée par son frère qui, si elle ne les avait pas portées et y aurait vu une espèce de trahison, elle avait choisi une paire dotée d'un petit talon pour éviter d'avoir l'air beaucoup plus grande que Stefano. Elle se regarda dans la glace en soulevant un peu sa robe. « Elles sont moches, » dit-elle. « C'est pas vrai. » Elle rit nerveusement. « Mais si, regarde. Les rêves que j'avais dans la tête se retrouvent sous mes pieds. » Elle se retourna avec une soudaine expression d'effroi. « Les nues, qu'est-ce qui va m'arriver ?»
Ilana Ferrante explore
Catherine Cusset.
Le sentiment d'envie jusqu'au bout, quoi. Et c'est dans toute son ambivalence, hein, avec ce désir d'être l'autre, de le tuer et cette admiration infinie. C'est une sorte de dieu, mais parce que Elena est consciente depuis le départ, hein, du caractère exceptionnel de Lila et de l'intelligence de Lila. D'ailleurs, je ne sais pas si au cours de la lecture je me suis posé la question ou pas, mais d'une certaine manière, il est évident que Lila a un certain rapport avec la maladie mentale. D'ailleurs, elle est très fascinée au début, en tant que petite fille, par Mélina qui est folle, par la voisine qui est folle. Il y a une sorte de fascination de Lila qui est comme une fascination identification, comme on reconnaît à l'avance quelque chose dont on est susceptible soi-même.
Et tu regardais Christina, ses jeans, ses cheveux, sa manière d'être un peu plus une fille que toi. Dans les couloirs de RER, tu empruntais à Christina du rouge à lèvres et des affaires un peu son rire, un peu sa voix.
Le deuxième tome de L'Amie prodigieuse donne raison aux inquiétudes de la future mariée. Quand les deux amies se retrouvent quelques années plus tard, la vie a rebattu les cartes du destin. Et contre toute attente, ce n'est pas à l'intrépide Lila que la chance sourit, mais à la discrète Elena. Le mariage de Lila s'avère vite un fiasco. Stefano se révèle en effet brutal et cupide. Lila entretient pendant quelques mois une idylle avec Nino, l'amour secret d'Elena qui lui donne un fils, Gennaro. Mais quand Nino s'enfuit, Lila se retrouve seule avec l'enfant plongée dans la misère. Elle est épaulée par un ami d'enfance, Enzo, et trouve finalement une place à l'usine. Tandis que Lila se débat dans ce quotidien blafard, l'horizon d'Elena s'ouvre en grand. Partie étudier à Pise, la narratrice s'initie à la politique, se fiance avec un camarade brillant et s'apprête à publier un premier roman. Consciente que ce succès doit beaucoup à La Fée Bleue, le petit livre jadis écrit par Lila, Elena souhaite partager son bonheur avec son inspiratrice de toujours. Mais en débarquant éclatante à l'usine où travaille Lila, Elena ne vient-elle pas d'abord prendre sa revanche sur sa brillante amie? J'arrivais dans la zone de l'usine Socavo par un sentier de terre battue jonché de déchets en tout genre. Un filet de fumée noire traversait le ciel glacial. Avant même de voir le mur d'enceinte, je perçus une odeur de graisse animale et de bois brûlé qui me révulsa. Je découvris Lila aux chambres froides. Elle sortait d'un congélateur nimbé d'une espèce de brume blanche et portait sur les épaules un bloc rougeâtre de viande congelée. Je remarquai tout de suite qu'elle avait une main bandée. « Lila ?» Elle se retourna lentement et me fixa, hésitante. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. Elle avait les yeux fiévreux, ses joues étaient plus creusées qu'avant, et pourtant elle donnait l'impression d'être grande et grosse. Elle portait une veste de travail bleue, mais enfilée par-dessus un genre de grand manteau, et elle avait aux pieds d'épaisses chaussures militaires. Je voulus l'embrasser, mais n'osais pas. Sans savoir pourquoi, je craignais qu'elle ne s'effrite dans mes bras. Or, c'est elle qui me serra longtemps. Je fus agressé par l'odeur émanant de ses vêtements humides, encore plus ignobles que celles qui flottaient dans l'air. « Viens !» lança-t-elle. « Sortons d'ici !» Et elle cria à celui qui travaillait avec elle « J'en ai pour 2 minutes !» en m'entraînant dans un coin. « Tu es diplômé ?» me pressa-t-elle. « Oui, mais il m'est arrivé quelque chose d'encore plus fantastique, Lila. J'ai écrit un roman et il va être publié en avril. Elle avait un teint grisâtre. On aurait dit qu'elle n'avait plus de sang. Et pourtant, son visage s'embrasa. Je vis le rouge lui monter au cou, aux joues et jusqu'au bord des yeux, au point qu'elle les plissa comme si elle craignait que cette ardeur ne brûle ses pupilles. Puis elle me prit la main qu'elle baisa d'abord sur le dos, puis sur la paume. « Je suis heureuse pour toi », murmura-t-elle. Mais sur le coup, je prêtai peu d'attention à cette marque d'affection, tant je fus frappé par ses mains gonflées et par ses blessures. « Qu'est-ce que tu t'es fait ?» Elle recula aussitôt et mit les mains dans ses poches. « Rien. Quand tu désosses la viande, tu te bousilles les doigts. »«
Tu désosses la viande ?»
Ils me mettent là où ils veulent. « Je vais très bien. Ici, au frigo, ils me donnent même 10 lire de plus par heure. Une indemnité à cause du froid. » Je murmurai. « Madame Olivier, notre institutrice est morte. Elle m'a fait parvenir la fée bleue. »«
C'est quoi la fée bleue ?»
Je la dévisageais pour comprendre si elle avait vraiment oublié, et elle m'eut l'air sincère. « Le livre que toi, tu as écrit quand tu avais 10 ans. » Je cherchais les feuillets dans mon sac et les lui tendis. Elle les prit, les reconnut, mais ne manifesta aucune émotion. « J'étais une petite fille présomptueuse, » maugréa-t-elle. Je me dépêchais de la contredire. « Aujourd'hui encore, ton récit est magnifique. » Je l'ai relu et j'ai réalisé que, sans m'en rendre compte, je l'avais toujours eu en tête. C'est de là que vient mon livre.
« De cette ânerie ?»
Nerveuse, elle rit fort.
« Alors ceux qui vont te publier sont vraiment des fous. »
Elle mit les feuilles dans sa poche et passa son bras sous le mien. Je me rendis compte que j'étais arrivé ici pleine d'arrogance et réalisé que j'avais fait ce long trajet en toute bonne foi, certes, et avec affection, surtout pour lui montrer ce qu'elle avait perdu. Et ce que j'avais gagné. Mais elle l'avait compris dès que j'avais surgi devant elle. Et à présent, elle réagissait en m'expliquant qu'en réalité, je n'avais rien gagné. Que dans ce monde, il n'y avait d'ailleurs rien à gagner. Que sa vie était aussi débordante d'aventures surprenantes que la mienne. Et que le temps ne faisait que passer, sans aucun sens. Nous nous embrassâmes. Après quelques pas pressés, je ne pus résister et me retournai pour lui dire encore au revoir. Je la vis aux côtés du feu. Elle feuilletait la fée bleue. Elle jeta brusquement son récit dans les flammes. Ce geste sans appel conclut, ou presque, le 2e tome de l'amie prodigieuse. Une amie pour l'heure éprouvée par la vie. Mais ces retrouvailles douces amères ne sont qu'un jalon dans la longue amitié d'Elena et de Lila. Le destin capricieux réserve bien des surprises à nos deux héroïnes. En guise d'épilogue, je vous propose de sauver des flammes ce récit que Lila, de dépit, vient de réduire en cendres. Reprenons le chemin lumineux de l'enfance et découvrons donc la genèse de ce fameux texte de Lila auquel Elena doit tant. Au cours de notre dernière année de primaire, la richesse devint notre idée fixe. Nous en parlions comme on en parle dans les romans de la recherche d'un trésor. À nous entendre, on aurait dit que la richesse était cachée quelque part dans le quartier et qu'elle attendait simplement que nous la trouvions. Puis je ne sais pourquoi, cela changea et nous commençâmes à associer les études à l'argent. Notre idée était qu'en travaillant beaucoup, nous écririons des livres et ces livres nous rendraient riches. On en écrira ensemble, s'exclama Lila un jour, me comblant de joie. Ce projet naquit peut-être quand elle découvrit que l'auteur des 4 filles du docteur Marsh avait gagné tellement d'argent qu'elle avait donné une partie de ses richesses à sa famille. Nous en discutâmes et je proposai de commencer aussitôt passer l'examen d'admission au collège. Elle consentit, toutefois elle ne put pas résister. Alors que je travaillais beaucoup, elle se mit à l'œuvre et écrivit un roman sans moi. J'eus bien de la peine quand elle me l'apporta pour que je le lise, mais je ne dis rien. Au contraire, je retins ma déception et lui fis grande fête. Il s'agissait d'une dizaine de feuilles quadrillées, pliées et fermées avec une épingle à couture. Ah, comme il était passionnant et plein de mots difficiles. La couverture était illustrée avec des pastels et je me souviens du titre « La fée bleue ». « Il est magnifique », dis-je à Lila.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia, avec à la technique Jehan-Richard Dufour et Maïwenn Lejehan, a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourousselikoua, Perrine Malinge et Claire Tessert. Je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine. Thank you.